Lorsque l'idée me vint de rêver ma vie depuis le Hilton, je me trouvais à un moment difficile sur les plans personnels et professionnels. Les choses auxquelles je m'étais autorisée à croire, l'irréfutabilité de l'amour, le pouvoir du récit, qui permettait aux gens de passer toute leur vie ensemble sans la moindre divergence, panacée de la vie de famille, je n'y croyais plus. J'avais perdu mon chemin. Par conséquent, l'idée que j'avais toujours été solidement établie quelque part et que le sentiment d'être perdu n'était chez moi qu'un fantasme, me séduisait beaucoup. J'étais entre deux livres et savais qu'il me faudrait peut-être des années pour pouvoir en entamer un nouveau. Pendant ces périodes épuisantes et incohérentes, il me semble parfois que mon esprit se désintègre. Mes idées se font brouillonnes, désordonnées, et mon imagination s'en va dans tous les sens, s'emparant de choses pour les juger aussitôt inutiles et les abandonner. Mais un phénomène nouveau apparut alors. Le Hilton de Tel Aviv opéra en moi comme une sorte de verrouillage, et pendant plusieurs mois, il occupa presque toutes mes pensées lorsque je m'asseyais pour écrire. Au début, je trouvais ça intéressant. Peut-être y avait-il là quelque chose à creuser. Puis, quand je m'aperçus que non, cela devint épuisant, et pour finir tout à fait affolant.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Une écrivaine américaine nommée Nicole se morfond au Hilton de Tel Aviv. Elle a laissé à New York ses deux enfants et un mari dont elle s'apprête à divorcer. Tout ce qui avait constitué jusque-là sa vie et ses certitudes lui paraît s'effriter, et son écriture elle-même semble en panne. Comme dans les premiers vers de l'Enfer de Dante, elle se trouve au milieu du chemin de sa vie, perdue en une forêt obscure. Au même moment, comme un écho à ses interrogations, mais sans que jamais ils ne se croisent, Epstein, un homme vieillissant, fait le même voyage. Pour lui, qui était riche et puissant, il s'agit non de retrouver son chemin, mais de s'alléger de tout ce qui comptait dans sa vie, avant d'entrer dans le silence jusqu'à y disparaître. Forêt obscure, traduit par Paul Guivache, est le dernier roman de Nicole Cross, tout juste paru aux éditions de l'Olivier. Après L'histoire de l'amour en 2006 et La grande maison en 2011, l'auteur, parvenu au mi-temps de sa vie, s'interroge à nouveau comme son personnage sur le besoin de se réinventer, sur ce qui nous tient prisonniers, sur la liberté et sur l'héritage. Un livre que Philip Ross a pu lire juste avant sa mort et qu'il a jugé éblouissant. Un récit où l'humour et le fantastique, les épices habituelles de Nicole Cross, rendent supportable le chagrin de vivre et où passe l'émouvant fantôme de Kafka en jardinier du désert. Grâce à Marguerite Capel, nous en parlons ce soir avec elle. Bonsoir Nicole Cross. Merci d'être
bonsoir.
Là. Dans ce livre « Forest Dark »,« Forêt obscure », vous faites allusion au premier vers de l'Enfer de Dante. Vous n'êtes pas encore parvenu au mi-temps de votre vie, mais votre double dans ce livre, l'écrivaine Nicole, elle s'interroge pas tant sur retrouver la voie droite, le chemin, mais surtout sur la possibilité de devenir une autre personne. Est-ce que c'est pour vous le cœur de votre livre, ce besoin soudain que peut éprouver un individu de s'interroger sur le chemin parcouru jusque-là et de décider soudain de devenir quelqu'un d'autre ?
Je ne crois pas qu'elle ait envie de devenir quelqu'un d'autre. Mon sentiment, c'est que peut-être comme nous tous, mener la vie la plus sincère possible. Et la question qui émerge en elle, c'est la question de savoir si la vie qu'elle vit, les formes qu'elle a choisies pour cette vie, lui permet ça. Est-ce qu'il y a peut-être une meilleure manière de vivre, peut-être une manière de vivre qui soit plus vraie, plus juste, plus fidèle à ce qu'elle est, qu'elle ait choisi ou pas, qu'elle ait ou pas fait les bons choix. Elle a l'impression que la vie qu'elle mène ne lui permet peut-être pas cette liberté, donc ce qu'elle cherche, c'est cette possibilité d'abandonner le monde d'avant, le passé, de le dissoudre, peut-être pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais quelque chose de plus vaste, de plus fidèle à elle-même, de plus libre.
Nicole Cross, dans Forêt obscure, le personnage féminin, a beaucoup de traits communs avec vous. C'est une écrivaine, elle a votre âge, elle est née à Tel Aviv, elle y revient, elle est en train de vivre un divorce douloureux, elle est en panne d'écriture. Qu'est-ce que pour vous représentait le fait de mettre ce double de fiction dans ce livre? Est-ce que ce besoin de dédoublement faisait partie de cette interrogation sur le mi-temps de la vie?
In fact, it was a way naming this character.
En fait, c'était une manière, le fait d'avoir donné mon prénom à ce personnage. C'était pas forcément une façon d'écrire de l'autobiographie, ni même de créer une distance. J'avais autre chose en tête. Depuis 16 ans que j'écris des romans, j'ai le sentiment, quand je me mets à table pour écrire, qu'il y a la possibilité d'une expansion infinie, presque infinie, du soi. Je peux devenir n'importe qui, je peux voyager dans l'espace, dans le temps. Et ça fait partie de la joie de l'écriture et de la liberté pour moi. On le sait tous en tant que lecteur. Quand on tombe amoureux d'un livre qui nous parle, nous devenons ces personnages. Il y a cet acte magique d'empathie, d'imagination. Nous sommes en quelque sorte en expansion, nous gagnons de nouvelles facettes. Et pourtant, quand on ferme le livre, quand je cesse d'écrire, quand nous revenons à notre vie, ce sentiment du soi devient de nouveau quelque chose d'inflexible, qui se restreint de nouveau. En fait, on se rend compte que l'identité, c'est un récit, de la même manière que le livre. Nous savons que ce dont notre esprit a besoin par-dessus tout, c'est d'une forme de récit cohérent qui nous dit ce qui nous sommes. Et nous façonnons cette histoire de la même manière que les écrivains façonnent les leurs, sauf que nous en sommes inconscients. Mais souvent, ces récits deviennent une prison pour nous. Ils ne sont pas assez justes ou ne l'ont jamais été, ils deviennent trop étroits. La question, c'est comment nous pouvons en repousser les limites. Et donc, j'ai appelé ce personnage Nicole et je lui ai donné les aspects de ma propre vie dans les grandes lignes. Et ensuite, je l'ai fait entrer dans un monde de fiction, un monde extrêmement surréaliste d'ailleurs. Donc, c'est cette discussion que j'avais envie d'avoir avec le lecteur sur l'apparence vraiment immédiate en fait, du roman et pas en sous-texte comme c'est souvent le cas.
Alors, dans Forêt obscure, Nicole Cross, votre roman, il y a deux personnages. Il y a Nicole, celui dont nous venons de parler, cette écrivaine qui part en Israël pour tenter de reconfigurer sa vie et son écriture. Et puis, il y a un vieil homme, Jules Epstein, qui est un homme très riche, un New-Yorkais, un avocat, qui collectionne les œuvres d'art et qui, soudain, disparaît peu à peu. Il efface ses traces. Avant d'en parler avec vous, on va écouter une première lecture de votre livre.
Dans le cas présent, il n'y avait ni cadavre, ni témoin, ni signalement. Seulement une inexplicable absence, là où s'était autrefois trouvé leur père. Difficile à imaginer, mais ils en vinrent à trouver cette fin adéquate. La mort était trop étriquée pour Epstein. À la réflexion, même pas une réelle possibilité. Vivant, il avait toujours pris toute la place. Il n'était pas d'un gros gabarit, seulement impossible à contenir. Il était excessif, débordait sans cesse de lui-même et donnait libre cours à tout. Passion, colère, enthousiasme, mépris des autres et amour de l'humanité tout entière. Il avait toujours été au sommet en tout. S'il ne possédait pas les capacités naturelles, il dépassait ses limites par la seule force de la volonté. Sa femme, Liane, avait toujours été allergique à sa fortune familiale qui la paralysait et la réduisait au silence. Mais Epstein lui apprit à le dépenser. Il acheta un Rubens, un Sargent et une tapisserie de Mortlake. Il accrocha un petit Matisse dans son bureau. Sous une ballerine de Degas, il s'asseyait les fesses à l'air. Il ne s'agissait pas pour lui de se montrer grossier, ni hors de son élément. Epstein était très civilisé. Pas raffiné, non. Il n'avait aucun désir de se débarrasser de ses impuretés, mais il avait fini par acquérir un excellent vernis. Il ne voyait rien dans le plaisir dont on dut avoir honte. Le sien était vaste et réel, si bien qu'il se sentait à l'aise parmi les choses les plus délicates. Mais une espèce de dérive avait fini par s'opérer. Par la suite, Quand ses enfants y repensaient et essayaient de saisir ce qui s'était passé, ils voyaient que le début de sa transformation coïncidait avec sa perte d'intérêt pour le plaisir. Un fossé s'était ouvert entre Epstein et son bel appétit, qui avait reculé au-delà de l'horizon que chaque homme porte en lui. Il tournait désormais le dos à ses acquisitions d'une exquise beauté. Il lui manquait ce qu'il fallait pour harmoniser l'ensemble, ou du moins n'en avait-il plus l'ambition. Quelque chose en lui avait changé. L'énergie tempétueuse d'Epstein ne soufflait plus en rafale. Un calme profond, insolite, s'était abattu sur toute chose, comme cela se produit avant l'arrivée de phénomènes météorologiques violents. Puis, le vent tourna et s'engouffra en lui. C'est à ce moment-là qu'Epstein se mit à se dépouiller de ses biens.
Nicole Krauss dans Forêt obscure, un chapitre concerne Nicole, un chapitre concerne Epstein. Jusqu'à la fin, ces deux personnages n'ont pas de lien, ils ne se croiseront jamais. Et en même temps, on a l'impression qu'il s'agit des deux faces d'une même médaille. Comme si Nicole avait quelque chose en elle de ce vieil homme qui se dépouille de tout. Et comme si Epstein avait en lui l'espérance qui anime Nicole pour se réinventer. Pourquoi est-ce que vous avez conçu ce livre de cette manière-là?
Je trouve toujours que réussir à créer des récits multiples qui se mêlent et qui, en quelque sorte, dialoguent ensemble un petit peu comme une partition, ça me permet en fait de créer du sens, de l'harmonie, des échos dans l'esprit du lecteur qui ne serait pas possible avec une narration linéaire. On peut traiter quelque chose en l'abordant par différents biais, perspectives. Et il y a la possibilité aussi d'avoir de l'harmonie et de la contradiction à l'intérieur. Ça crée des dimensions qui, pour moi, en tant qu'écrivain, sont beaucoup plus intéressantes que si je devais choisir simplement une narrative. Et je ne peux pas imaginer ce livre sans eux. Ils créent, exactement comme vous l'avez dit, ils sont les deux faces d'une même médaille. Et ils créent en fait ce tout ensemble.
Mais ils ont déjà au départ quelque chose en commun, c'est le Hilton de Tel Aviv. Et ce Hilton, dans votre livre, il a une place très importante, Nicole Krauss. Le Hilton, pour vous, est à la fois une fin et un déclencheur. C'est un immeuble qui obsède littéralement l'écrivaine Nicole, et j'imagine que pour vous aussi, il a une très grande importance. Les photos qui sont dans le livre montrent à quel point votre famille a été liée à cet étrange bloc de béton au bord de la mer à Tel Aviv.
Yes, it's an extraordinary structure.
Oui, c'est un bâtiment assez extraordinaire. C'est un énorme rectangle qui est perché comme ça, installé sur la côte de Tel Aviv. C'est un bâtiment qui est si puissant, qui a une allure tellement forte, qu'on a l'impression en fait, qu'il a sa propre réalité, qu'il impose son propre ordre des choses. Et pourtant, dans l'esprit de Nicole, le personnage Nicole, ce bâtiment représente exactement l'inverse. Et c'est là où je pense que l'obsession commence pour elle. Ses souvenirs de cet endroit-là, et oui, j'y ai moi aussi passé beaucoup de temps enfant, ses souvenirs de cet endroit sont l'inverse, le contraire de la réalité que ce bâtiment affirme. Ce sont des mémoires dans lesquelles la réalité se dissout en quelque sorte et permet en fait d'autres possibilités et des choses inexplicables. Je dirais presque que c'est quelque chose de magique.
Of another world, of another reality.
Comme si ça venait d'une autre réalité, d'un autre monde.
And so for her, this Hilton,
cet hôtel Hilton, pour elle, en vient à presque représenter une forme de portail par lequel elle a réussi autrefois à se glisser et elle espère qu'elle pourra de nouveau se glisser pour atteindre ses possibilités, cette façon d'échapper à ce que la réalité nous impose pour atteindre quelque chose de plus ouvert, de plus libre, de plus souple.
Mais en dehors du Hilton de Tel Aviv, Epstein et Nicole, votre personnage, Nicole Krauss, ils ont en commun le fait que partir en Israël, alors qu'ils sont tous les deux des New-Yorkais, des Juifs New-Yorkais, aller en Israël et plus précisément à Tel Aviv, ce n'est pas une fuite, c'est comme l'accession à une autre vie, à une autre réalité. C'est comme la porte d'entrée, comme vous le disiez, dans quelque chose d'augmenté, une réalité augmentée. Avant d'en parler avec vous, on va écouter une deuxième lecture d'une page de votre livre. Nicole et un interlocuteur qui s'appelle Friedman discutent dans un café de Tel Aviv.
Je me surpris à parler sans aucune gêne de mes nombreux souvenirs d'Israël, d'histoires que m'avait raconté mon père sur son enfance à Tel Aviv et de mon rapport personnel à la ville où je me sentais souvent plus chez moi que partout ailleurs. Lorsque Friedman me demanda ce que j'entendais par là, j'essayais de lui expliquer que j'étais plus à l'aise avec les gens d'ici qu'avec les Américains, parce que tout était accessible, que peu de choses étaient cachées ou occultées, que tout le monde adorait s'intéresser aux propos des autres, aussi incohérents et intenses fussent-ils, et que cette ouverture, cette immédiateté, me donnait l'impression d'être plus vivante et moins seule. L'impression, je suppose, qu'une vie authentique était plus envisageable ici qu'ailleurs. Bien des choses possibles en Amérique ne l'étaient pas en Israël. Seulement en Israël, on ne pouvait pas ne rien ressentir, ne rien susciter, marcher dans la rue sans exister. J'ai lu vos romans, nous les avons tous lus, fit-il en désignant les autres tables du restaurant. Vous enrichissez l'histoire juive, et pour cela, nous sommes très fiers de vous. Comme cela se produit chez chaque juif depuis des millénaires. D'un côté, j'étais flattée, je voulais plaire. Dès l'enfance, j'avais compris la nécessité d'être sage et de faire tout mon possible pour que mes parents soient fiers de moi. Je ne crois pas avoir jamais exploré ce qui se cachait derrière cette nécessité, sinon qu'elle bouchait un trou par lequel les ténèbres risquaient de se répandre et d'emporter mes parents. Mais tout en rapportant chez moi des brassées de distinction et de récompenses qui emplissaient mes parents de fierté, je détestais ce fardeau et les contorsions qu'il impliquait, et ne connaissais que trop le carcan dans lequel il m'enfermait. Le tout premier enfant juif fut ligoté et presque sacrifié au nom de quelque chose de plus important que lui. Et depuis le jour où Abraham descendit du mont Moria, terrible père mais bon juif, la question de savoir comment continuer à ligoter reste en suspens. Si l'on a découvert une échappatoire à la violence d'Abraham, c'est celle-ci. Que les liens soient invisibles, qu'il n'y ait aucune preuve de leur existence, sauf que plus l'enfant grandit, plus ils deviennent douloureux, jusqu'au jour où, baissant les yeux, il s'aperçoit que c'est sa propre main qui les serre. En d'autres termes, enseigner aux enfants juifs à se ligoter eux-mêmes. Et pourquoi ? Pas pour la beauté à la manière des Chinoises, ni même pour Dieu ou le rêve d'un miracle. Nous ligotons et sommes ligotés parce que ces liens nous relient à ceux qui ont été ligotés avant nous, et à ceux qui ont été ligotés avant eux, et encore avant eux, par une succession de cordes et de nœuds qui remontent à 3000 ans, temps depuis lesquels nous rêvons de nous libérer, de nous échapper de ce monde pour entrer dans un autre où nous ne serons ni empêchés de grandir, ni déformés dans le but d'adhérer au passé, où nous serons libres de pousser à l'état sauvage, tournés vers l'avenir.
Nicole Cross, il y a beaucoup de choses dans cette partie de votre livre qui nous interrogent. Il y a ce lien que ressent Epstein comme Nicole, ce lien envers Israël, même alors qu'ils ne respectent ni l'un ni l'autre les obligations religieuses, qu'ils sont des Américains 100%. Et pourtant, il y a ce lien qui fait dire à un moment à Epstein, ce n'est qu'en Israël qu'un juif est un juif authentique. Tout en disant que ce sont des liens qui l'enserrent et qui l'empêchent de vivre. C'est une contradiction assez cruelle que vous décrivez là. Est-ce que c'est celle que vous ressentez ?
Il y a deux choses en même temps en Israël et qui sont des choses contradictoires. La première, ce sont des millénaires d'histoire. Et bien sûr, comme ce passage le montre, c'est un livre qui parle du fardeau du passé. Comment le passé nous emprisonne ? Comment est-ce qu'il nous définit ? À quel point nous en avons besoin, bien sûr nous en avons besoin pour raconter qui nous sommes, mais en même temps, le pays lui-même est neuf, très nouveau, très récent. Et comme le dit le personnage, je crois qu'Epstein dit ça, ou Nicole dans le livre, dans ce passage-là, on ne peut pas être là et ne pas ressentir que cette discussion autour de la réinvention résonne. Qu'est-ce que c'est que créer une société ? Qu'est-ce que c'est que créer une identité ? qui en fait partie, qui est à la fois dans la continuité et en même temps dans la contradiction avec le passé, en rupture avec le passé, comme l'est l'État d'Israël, et en même temps un reflet de ce passé. C'est quelque chose de très compliqué qu'on ne réussit jamais à faire parfaitement bien. Ces personnages, pour moi en tant qu'auteur, les envoyer dans cet endroit-là, ça me permettait d'accéder à ces deux éléments-là.
No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, wonder why. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but rich men can't imagine Paul. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. So one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think it true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane. That's stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. I said, one day. Oh, baby, we'd be old and think about the stories that we could have told. I said one day, baby, we'd be old. Oh, baby, we'd be old. Oh, baby, we'd be old. So, baby, we'd be old. Oh, baby, we'd be old. So, baby, we'd be old. So, baby, we'd be old. Baby, we'd be old. Little pretty baby, pretty little baby. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.
Nicole Krause, dans votre livre « Forêt obscure », il y a un autre personnage qui passe comme un fantôme. Je le disais, il y a un peu de fantastique aussi, qui est toujours votre matière favorite pour écrire. Et ce fantôme de Kafka, il est étonnant parce que vous en faites un jardinier du désert. Vous racontez, Nicole, l'écrivaine raconte qu'en fait, il a simulé sa mort à Prague, que Max Brod l'a aidé à s'enfuir et qu'il est venu s'établir en Israël sous un faux nom, où il est devenu jardinier. Alors ce personnage, évidemment, il est en lien avec les manuscrits inédits de Kafka qui ont été retrouvés à Tel Aviv et que Israël a obtenu d'en avoir la possession en 2016 après des jugements divers. Faire de Kafka ce jardinier du désert, pour vous, ça représentait aussi l'envie qu'avait cet homme toujours de vivre une autre vie que la sienne, comme Epstein et comme Nicole dans le livre.
Yes, the thought came to me when I would pass by Kafka's
Quand je suis passée à Tel Aviv devant l'endroit où les archives de Kafka étaient conservées, c'est sur la rue Spinoza à Tel Aviv. Et j'étais devant ce bâtiment et je regardais cet appartement en sous-sol avec ses barreaux qui le protégeaient et je me demandais en fait ce qui s'y trouvait, est-ce que c'est Kafka en fait qui est enfermé là-dedans. Et plus je pensais à cette idée d'enfermement, plus j'ai commencé à penser au revers de la médaille qui est l'échappatoire.
And I began to think about how this story, we talked about this before, the narratives that we tell about ourselves, well, the story of Kafka that we have, who Kafka was as a man, I'm talking about,
on se raconte des histoires sur qui était Kafka en tant qu'homme, et tout ça nous vient de Max Brod, principalement le récit que nous faisons de Kafka. Nous viennent de Max Brod qui a sauvé les manuscrits de Kafka, les a publiés depuis la Palestine, les a édités, etc. En quelque sorte, tout ce que nous savons de Kafka, l'homme, vient de cette autre personne qui raconte un récit, Max Brod. Et puis j'ai commencé à me dire que peut-être une partie de cette histoire n'était pas tout à fait vraie et que ce que nous voyons comme Kafka, cet homme qui a souffert, qui n'a jamais réussi à échapper à son père, aux exigences de son travail, etc., à la compagnie d'assurance, n'a jamais réussi à échapper à son corps fragile, est mort de maladie. En fait, quand on le lit, on a l'impression qu'il y a là quelqu'un qui fondamentalement sait échapper, sait libérer d'une manière ou d'une autre, et ne serait-ce que parce que des années après, il nous parle toujours et on le lit toujours. Et donc je me suis demandé s'il y avait une autre façon peut-être de raconter l'histoire de Kafka, est-ce qu'on pouvait éventuellement modifier ce récit et le rendre plus juste, plus vrai. Et donc cette autre idée dont vous parlez, justement, est née de là.
Alors, dans ce livre qui s'appelle Forêt obscure à cause du vers de Dante, en fait, on a l'impression que dans ce livre, Nicole Cross, c'est le désert qui joue le rôle de cette forêt obscure, c'est le désert qui attire Epstein, puisqu'il veut lui planter une forêt en hommage à ses parents, qui attire Nicole, qui va se retrouver là-bas dans une petite maison isolée, qu'elle imagine être la cabane de Kafka jardinier. Il y a cet attrait pour le désert qui est l'endroit où la vie peut s'arrêter et redémarrer.
Tantôt, je croyais que c'était le lit de Kafka. Tantôt, non. Parfois, me semble-t-il, j'oubliais presque avec bonheur qui était même Kafka. À certains moments de cette maladie, je me sentais délicieusement vivante. Plus vivante, je crois, que je ne m'étais jamais sentie depuis l'enfance. Consciente du bruit de différentes sortes de vents, des dilatations et des contractions de la maison, des ailes d'une mouche prise dans une toile d'araignée et qui n'avait pas encore capitulé, et de la note basse, régulière, du soleil jouant sur le plancher. Lorsque la douleur devenait insupportable, je repérais une légère tache sur le mur ou au plafond, ou bien une traînée de saleté sur la vitre, et me forçais à fixer cette minuscule imperfection avec une extraordinaire intensité, la creusant avec une extrême concentration. En conséquence de cela, ou de la patience qui grandit naturellement lorsqu'on est seul et cloué au lit, je m'aperçus peu à peu que ma vision s'aiguisait. Mais bientôt, une inquiétude brutale et nue jeta une ombre sur le reste, et c'était celle-ci. Pendant presque toute ma vie, j'avais imité les pensées et les actions des autres. Une grande partie de ce que je faisais ou disais était le miroir de ce qui se faisait et se disait autour de moi. Et si je continuais ainsi, les rares éclats de vie qui brûlaient encore en moi ne tarderaient pas à s'éteindre. Lorsque j'étais très jeune, il en allait autrement, mais j'avais du mal à me rappeler cette époque, enfouie au plus profond de moi. La seule chose dont j'étais sûre, c'est qu'il y avait eu un temps où je regardais le monde sans avoir besoin de le subordonner à un ordre. Je voyais simplement, avec toute l'originalité dont je disposais, l'ensemble des choses sans désirer leur donner une interprétation humaine. Jamais plus je ne serais capable de voir de cette façon-là, je le savais. Et pourtant, allongé en ce lieu, il me semblait que je n'avais pas tenu la promesse de cette ancienne vision, celle que j'avais avant d'apprendre peu à peu à regarder de la même façon que les autres, à copier ce qu'ils disaient et faisaient, et à calquer ma vie sur la leur, comme si aucune autre façon d'exister ne s'était jamais présentée à moi.
Nicole Cross, c'est dans le désert que les routes d'Epstein et de Nicole, l'écrivaine, vont diverger. Lui, Epstein, va s'y dissoudre et Nicole va y renaître d'une certaine manière. Elle va y arriver en traînant une valise très lourde et elle va repartir en traînant une valise vide. La symbolique, elle est forte. Est-ce que cette partie-là de votre livre, qui est absolument extraordinaire, est-ce que c'est le moment où vous nous dites qu'au fond, il faut accepter une part de chaos dans sa vie plutôt que de rechercher l'ordre à tout prix?
I think that we need both.
Je crois que nous avons besoin des deux.
I think that the authentic life is always cycling between these two things.
Je pense qu'une vie sincère, véritablement vécue, est toujours en train d'osciller entre les deux, comme dans la nature. La nature trouve à s'accomplir dans des formes qui sont ensuite détruites, dissoutes pour recréer des vies nouvelles. Et je crois que c'est la même chose dans nos propres vies si nous ne nous montrons pas trop rigides, si nous nous autorisons cela. Ces moments comme celui que vit Nicole dans le désert, ces moments où pour elle il y a énormément de choses qui se sont dissoutes dans sa vie et lui reste son esprit puisque c'est tout dans sa tête, rien ne s'est passé de façon très concrète dans sa vie, mais en tout cas dans sa tête elle est en train de déconstruire son passé et il faut qu'elle passe par ce moment où elle n'a plus de forme donnée. Et je pense que ça, c'est quelque chose de terrifiant pour nous tous. À cause de ce qu'on a dit avant, nous avons besoin de structure, de stabilité, et en même temps, c'est évidemment un moment d'ouverture, une ouverture à une possibilité, à quelque chose de plus vaste, de quelque chose de différent, espère-t-elle, quelque chose qui lui ressemble davantage, qui soit plus proche de l'essence de ce qu'elle a toujours été. C'est ce miroir aussi de ce qu'on était quand on était enfant. Je crois que, tout simplement, il faut toujours vivre avec les deux. Parfois, on met plus l'accent sur l'un ou sur l'autre, mais en fait, personne ne veut une vie dans laquelle il n'y a que du chaos ou que de l'ordre.
Est-ce qu'on peut penser, Nicole Cross, que ce livre est justement une sorte de nœud dénoué et que les livres suivants seront différents?
J'espère que chacun des livres que j'ai écrits ont été différents. Et entre deux, je dois beaucoup vivre, je change moi aussi, je change d'avis sur les choses, ma vie évolue. Et donc, inévitablement, les livres doivent être quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Donc, je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit sur ce qui va se passer par la suite.
En tout cas, ça restera toujours un plaisir de vous lire, Nicole Cross. Je rappelle que ce Forêt obscure, traduit par Paul Guivarch, vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Merci infiniment, Nicole Cross, d'être venue nous voir, récupérer de votre jet lag. Et merci à Marguerite Capelle de nous avoir permis de nous parler ce soir. Au revoir.
Thank you.